Bonjour et bienvenue à Pacte Pod, votre rugby clubhouse. Donc moi c'est TK, je suis l'américain de notre groupe d'amis réunis par le rugby. Je suis ancien joueur de foot américain, mais j'ai quand même passé un peu de temps sur les terrains de rugby avec mon ami Charlie Bayer.
Absolument, j'ai eu la chance de me balader sur les terrains avec toi. J'étais deuxième ligne quand tu étais pilier devant moi.
Exactement, donc nous sommes aussi avec un autre deuxième ligne, là c'est Théodore de Saint-Rémy, ancien rugbyman de Metro Racing.
Ouais, ancien rugbyman d'un ancien club, hein, puisque Metro Racing n'existe plus, mais maintenant il y a le Racing 92, mais c'est les mêmes couleurs, voilà, donc très content d'être là avec vous aussi les gars.
Et en fait les gars, j'ai une petite surprise pour vous, parce que là récemment c'était Thanksgiving, et en fait ça fait 9 ans que vous êtes venus chez moi pour passer votre première Thanksgiving.
C'est vrai, absolument.
Souvenir tout à fait clair dans ma mémoire. J'ai vu cette grande tête de Dredo qui était à table avec nous autour de cette dinde dans ce petit appartement. Mais c'est un super souvenir et je crois que c'est resté d'ailleurs le seul Thanksgiving de ma vie, Thierry.
Ah. Pareil, ouais, j'allais le dire en plus que c'est aussi mon premier et dernier à ce jour. Du coup, ça nous laisse donner des idées pour l'anniversaire des 10 ans, quoi.
Exactement.
Ça, c'est une très bonne idée. Donc, j'ai fêté ça récemment avec ma petite famille, tout en tranquillité. Donc, bon, c'était un très bon souvenir aussi de fêter ça avec vous, les gars.
Pack de potes, terrain 10.
Bon, quand même, beaucoup de rugby en ce moment. Il y a le European Champions League. En fait, j'ai du mal avec ce titre. C'est European, c'est Champions League, c'est League of Legends. C'est Heineken Cup à la base, non?
Avant, c'était le Hash Cup.
Ah, ok.
Oui, Heineken Cup pour les autres pays et Hash Cup en France parce qu'on dit pas le nom de l'alcool parce que c'est pas bien et c'est pas lié au rugby.
Ah oui, ok.
Ouais. C'est vrai qu'on boit jamais de bière au rugby.
Oui, non.
Jamais.
Donc là, il y a plein de rugby qui se passe, mais en fait, je voulais, avant de démarrer là, j'aimerais bien juste prendre un petit moment pour revenir sur ce Coupe de Monde, pour dire, tiens, après 6 semaines, quels sont les souvenirs qui nous restent le plus, on va dire?
Bah écoute, je vais commencer. Moi, là, alors, sur la globalité, il y avait quand même... On en avait parlé sur la fin, il y avait l'image du rugby que je trouvais vraiment grandie, parce que c'est vrai que c'était vraiment ponctué, toute cette Coupe du Monde, de super belles images entre joueurs, de respect, il n'y a pas eu de dérapage, il n'y a pas eu de joueurs qui ont foutu le bordel ou que ce soit, c'était vraiment une belle communion. Après, dans ce qui est ressorti, c'est évidemment, je pense pas qu'on puisse parler d'avènement encore, mais le Japon, évidemment, qui est à la fois dans l'accueil, dans son esprit rugby, dans ce qu'il a montré sur le terrain, je pense à marquer les esprits et clairement, si ce n'est si on parle pas d'avènement, bon, ils ont marqué une étape dans leur histoire du rugby. Il y a aussi, bon, je dis pêle-mêle un peu comme ça, mais ce que je retiendrai, allez, parce que on va pas tout refaire nos 10 podcasts précédents, mais la petite amertume que dont je vous avais parlé pendant la finale, où j'étais un peu désolé, j'étais un peu triste que ce soit pas l'équipe la plus joueuse qui gagne. Finalement, je suis 1000 fois consolé, entièrement consolé par tout ce que j'ai vu des scènes de liesse, par la façon dont cette Coupe du Monde a été reçue par l'Afrique du Sud, qui est un pays qui en avait pas besoin. Enfin, qu'est-ce que c'est une Coupe du Monde par rapport au déroulement d'une nation? Mais en tout cas, c'était toutes ces scènes de l'accueil de l'équipe et de cette Coupe du Monde au retour du en Afrique du Sud, ça m'a vraiment fait très plaisir.
Ouais, je te rejoins, Charlie. C'est vrai que c'est toujours émouvant, mais c'est vrai que c'est encore plus émouvant quand il y a un double enjeu comme un pays dans l'Afrique du Sud qui est à la fois un pays qui a des grands problèmes sociaux et puis une histoire fracturée. Et voir de la communion sur un historique de fracture, c'est une belle histoire supplémentaire. On va dire qu'il y a une couche supplémentaire quand c'est l'Afrique du Sud qui gagne comme ça. Après, d'un point de vue strictement sportif, moi, mon pronostic de départ et ma théorie s'est écroulée en finale, malheureusement. J'ai été très, très déçu par le match raté des Anglais en finale. Je pense qu'Eddie Jones, fondamentalement leur coach, s'est trompé en remettant la même équipe de titulaires que celle qui avait battu les Blacks en demi. Parce que je pense que tout simplement, c'est trop dur de battre en suivant les Australiens, les Blacks et l'Afrique du Sud avec une ossature trop semblable. Donc voilà, moi je retiens quand même ça, je garde une petite tristesse là-dessus parce que je trouve que le titre mondial aux Anglais aurait été un parachèvement magnifique d'histoire sportive. Voilà, sur ce qu'ils avaient préparé et ce qu'ils voulaient faire. Mais voilà, après, je garde aussi en particulier des images des Fidjiens sur cette Coupe du Monde qui me, voilà, qui me font complètement rêver. D'ailleurs, on va en reparler après parce que on les revoit sur les terrains chez nous et c'est, voilà, c'est des magiciens. Donc, c'est, ils contribuent, moi, à me faire rêver au sens vraiment propre du terme. Quand je les vois jouer, je me dis, mais les mecs marchent sur l'eau, quoi. C'est fabuleux. Donc, j'ai des bons souvenirs avec ça.
Ouais, je te rejoins parce que la chose qui, pour moi, qui était le plus marquant, c'est de passer, on va dire, 11h30, de prendre un déjeuner un peu tôt pour aller regarder sur mon téléphone Pays Galles, Fidji, parce que je trouvais ça excellent et j'ai jamais fait un truc pareil entre midi et deux de prendre le temps pour regarder un match au boulot. Et je trouvais ça vraiment, vraiment sympa, en fait. Que c'est, je trouve, les diffusions étaient plutôt pas mal par le site web et en plus l'application. Mais vraiment,
ouais, ça. C'était bien fait,
c'est ouais, vrai. je trouvais ça vachement bien. Donc pour moi, c'est la première fois que je regarde un Coupe du Monde de rugby avec autant d'intensité et pas juste l'équipe de France, on va dire. Et c'était un vrai plaisir parce qu'il y avait des jolies histoires un peu partout. Donc ça, c'était agréable. Aux États-Unis, on parle assez souvent de l'idée de qui a gagné, who won the championship, qui en sortant a plus la cote. Et pour moi, par exemple, je trouvais le Fafster qui avec son super photo dans ses caleçons, même pas son caleçon, c'est Tidy Whitey, son slip.
Ouais, son slip.
Avec le coupe, c'était génial. Mais je trouve que j'ai regardé un match Toulouse-Montpellier. Mais en fait, finalement, je pense que c'est Chelson Colby qui en fait a plus ou moins gagné le Coupe du Monde parce que en sortant, il est vraiment devenu un star.
Et en France, nous, on était déjà un peu gâtés. Parce que il a quand même été élu meilleur joueur du dernier championnat de France et il nous avait déjà régalé. Mais c'est vrai que là, il a explosé un peu à la face du monde, notamment sur ses actions en finale où c'est lui qui fait le break hein, quand même sur la finale, donc sur le dernier essai des Sudaf. Mmh. C'est mérité qu'il sorte grandi, un petit homme grandi, parce qu'il a tout simplement des cannes de feu, donc ça, personne ne peut lui enlever, c'est magnifique.
Pardon, juste pour par rapport à ce que Théo disait, comme quoi, putain, à chaque fois, il est dedans quand même, Théo. C'est que, je sais pas si t'avais suivi, mais Eddie Jones, il a émis des regrets quant à l'équipe qu'il a alignée, notamment en première ligne, il en a clairement parlé après.
C'est incroyable, en fait. Ça paraît ça paraît facile à dire, mais ça me semble fou en fait qu'il ait pas eu l'intelligence de se dire mais putain ça a beau être la finale, mais les mecs ils sont tellement grimpés sur l'Everest en dominant les Blacks comme ça que je peux pas remettre les mêmes sur le match d'après. Ils ont tout donné, donc il fallait pour moi absolument remettre Owen Farrell en 10. Il fallait changer plusieurs joueurs de manière certaine, mettre des remplaçants qui auraient été morts de faim, quitte à les faire sortir à la 30e, faire rentrer les autres après. Mais il fallait tenter un truc et il n'a pas osé. C'est une grande déception.
Ouais. Je ne suis pas sûr si vous avez encore des questions où on n'avait pas eu de réponse. Je donne un exemple pour moi, par exemple. La question que j'ai en sortant de ce Coupe du Monde, c'est depuis quand les hommes portent des espèces de soutien-gorge là. Je suis pas sûr si vous avez vu, ils ont le haut qui fait vraiment un soutien-gorge de femme de sportive. Et c'est quoi ça?
C'est les trucs de
c'est
GPS.
Des espèces de brassières, hein, je pense. On appelle ça des brassières quand on a des femmes et des filles qui font de la danse, ce qui est mon cas, ça s'appelle des brassières. Alors, je pense que ils mettent ça maintenant notamment parce qu'ils ont des balises GPS dedans.
Ah.
Et c'est la manière qu'ils ont de les faire tenir sur le corps sans que ça gêne, sans que ça se balade, etc. Et ensuite, les équipes qui débriefent les matchs, avant même de parler de la qualité technique, ils ont toutes les calories dépensées et les kilomètres parcourus par tous les joueurs. Donc à mon époque héroïque à moi, quand t'arrivais à te planquer un peu, bon, grosso modo le coach savait pas que t'avais fait les bordures quoi. Là les mecs ils sont démasqués direct. Donc je sais pas si c'est affiché dans le vestiaire, mais grosso modo ça sert à ça.
Ouais.
Il y a plus de triche là. Tu sais quand tu fais les bip bip autour du stade et que tu coupes un peu l'intérieur des plots, mais là t'es démasqué direct, c'est fini ça. Ah, c'est fini les vieilles combines à l'ancienne.
Ah, bah, je suis content, j'ai posé la question alors. On a tous ces beaux joueurs qui reviennent sur les écrans, surtout avec ce Euro Cup et le Top 14. C'est vraiment agréable de les voir. Et en fait, Théo, j'avais une question pour toi parce que moi, j'aime bien le basket, NBA et tout ça. Et j'ai écouté quelqu'un qui parlait de l'équipe USA de basket entre 2008 et 2012, où il y avait vraiment des très, très grands joueurs aujourd'hui qui sont vraiment des très, très grands joueurs, mais qui étaient un peu jeunes à l'époque. Donc LeBron James, James Harden, Russell Westbrook, Kevin Durant, qui étaient sur ces équipes-là. Et en fait, l'effet d'aller gagner des Jeux Olympiques et ce genre de choses, ça a donné une certaine confiance dans ces joueurs. Donc, je me demande, est-ce que nous allons voir, on va dire, une certaine confiance, pas forcément des joueurs français, mais peut-être des joueurs anglais, parce que quand même, ils sont allés dans le final, et ou des joueurs sud-africains. Est-ce qu'on va voir un montée de niveau pour ces joueurs-là avec un nouveau prise de conscience, confiance?
Ouais, c'est un peu difficile à dire. En tout cas, c'est vrai que l'équipe, d'ailleurs, je te fais un petit clin d'œil sur le basket, tu es un peu notre George Eddy à nous. Hein. C'est vrai que l'accent américain pour parler de sport, etc., c'est pas toi qui l'as inventé, mais tu es le digne héritier de George Eddy.
Merci.
Qui était d'ailleurs un super basketteur. Il avait fait une fois un truc hallucinant, un tour de terrain où il a mis des paniers de partout. Bref, je ferme la parenthèse. Ce que tu dis là, c'est à quel point une équipe jeune en devenir, composée de grands talents, va acquérir de la confiance en gagnant des titres. Donc je pense que c'est difficile de comparer par rapport à ce que tu disais, dans la mesure où je ne sais pas si l'équipe d'Afrique du Sud, qui est championne du monde, elle est si jeune que ça. C'est une équipe qui était quand même assez mélangée, avec quelques joueurs, quelques anciens, etc. Et ils sont déjà sur le toit du monde. Ce que disent les commentateurs américains sur l'équipe dont tu parles, c'est que les Jeux Olympiques, pour les basketteurs américains, c'est un peu une compétition secondaire. Parce qu'en fait, eux, ils ont la reine des compétitions et c'est le trophée NBA, oui, qui est le but ultime. Donc, c'est plutôt une équipe qui aurait été gagnée une tournée des Lions britanniques en jeunes, etc., qui serait comparable à ça, plutôt que cette Coupe du Monde qui est déjà en fait le Graal. Et finalement, ceux qui ont construit des choses en tant qu'équipe jeune sur cette Coupe du Monde, je pense que c'est plutôt les Français en réalité, parce que nous, on a pas mal de jeunes joueurs qui seront là dans 4 ans et probablement dans 8 ans, qui ont été chercher des galons, pas de titre, mais de confiance en eux. Mmh. Donc je pense que c'est plutôt les Français qui nous feront un parcours comme ça, je crois.
D'accord. Bon, on a quand même beaucoup de rugby devant nous, donc notamment dans nos fameux Heineken Cup, qui n'est plus la Heineken Cup, mais the European Rugby Championships Cup. Ouf, c'est un peu lourd à dire quand même.
European Professional Club Rugby Champions Cup.
Ok, okay. C'est même mieux.
Sinon, on ne s'y retrouve pas.
Ouais, ils n'ont plus de naming, mais je pense que ça va revenir. Hein. Bientôt, il y aura une marque là-dessus, c'est pas possible.
Ouais, c'est trop long. Bon, j'ai fait un peu de recherche, parce que même si c'est pas la première fois que je regarde ces matchs, c'est un peu la première fois que j'ai mis vraiment la tête dedans pour comprendre un peu l'organisation. Donc si vous nous écoutez, vous êtes peut-être américain, vous comprenez pas trop le rugby, donc c'est parfait, je vais vous expliquer ça. Donc il y a 20 équipes qui sont divisées en 5 poules différentes, donc 5 poules de 4 équipes. Notamment, il y a 6 équipes de l'Angleterre, de English Premiership, il y a 6 équipes de la France, de Top 14. Après, il y a une équipe, on va dire, sur le meilleur équipe d'Irlande, d'Italie, d'Écosse et Pays de Galles, qui là, c'est basé sur le Pro 14, c'est bien ça?
Oui, c'est un petit championnat qu'ils ont, qui est un petit peu intermédiaire entre les pays. C'est une espèce, c'est la Ligue Celte, plus ou moins. Enfin, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Je ne sais plus, d'ailleurs.
Que ça s'appelait, en tout cas.
Ça s'appelait, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça reprend. Ce qui est important, c'est de retenir que ça reprend les meilleures équipes irlandaises, galloises et écossaises. Et plus une équipe italienne.
D'accord. Donc, globalement, si je regarde les 10 dernières années, on voit que les Saracens, ils ont gagné trois sur les 4 dernières championships. Après, avant ça, il y avait Toulouse et Leinster aussi, qui sont des champions récentes. J'ai noté quand même que les Anglais, ils gagnent plus souvent ce championnat que les Français. Donc, c'est 9 à 8, par exemple. Et Irlande, juste derrière, avec 7.
Alors, je dois dire que sur ce thème de la Coupe d'Europe, les Français ont quand même été bien, bien meilleurs en rugby qu'en foot, hein, puisqu'ils ont attendu 40 ans pour gagner une Coupe d'Europe de foot, alors qu'ils ont gagné les premières en rugby dans les années 96, 97, qui sont les premières Coupes d'Europe où c'était Toulouse qui avait gagné. Et maintenant, c'est vrai que les trophées se partagent, mais ça reste relativement équilibré. On a Toulouse a dû empiler, je sais pas, 4 ou 5 Coupes d'Europe depuis le début de l'histoire. Ouais. Mais c'est vrai que bon, les Britanniques restent un petit peu devant, et quand tu cumules Anglais plus Irlandais, ils sont nettement plus devant. puisque l'Ulster et le Leinster ont gagné plusieurs fois aussi, les deux équipes irlandaises qui ont été très très fortes, notamment du temps de Paul O'Connell, Brian O'Driscoll, où quand ils avaient ces stars-là, ils étaient quand même très très difficiles à battre.
Et si on parlait des différents groupes que nous avons cette année, Charlie, est-ce que tu peux nous parler de groupe 1 et 2 ?
Ouais, bah bien sûr. Bah alors dans la poule 1, bon déjà pour les lister, hein, il y a le Leinster dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Il y a Northampton Saints, club anglais, Lyon et le Benetton Rugby, donc un des fameux clubs italiens dont on parlait tout à l'heure. Alors clairement les favoris de cette poule, c'est les quadruples champions d'Europe, nos amis irlandais du Leinster, qui sont en tête de leur poule, hein, comme prévu un peu, comme annoncé, qui se débrouillent bien. Notre club anglais, lui, il a gagné la Coupe d'Europe, il a déjà été vainqueur, mais il y a 20 ans de ça maintenant, donc on peut pas parler de grande Europe hein, par rapport au Leinster qui est à côté. On a le Lyon qui, dans le classement, donc je le fais dans l'ordre du classement, le Lyon qui est troisième pour l'instant au classement, qui est un peu derrière, qui a fait un début de top 14 tonitruant. Alors on lui aurait souhaité une meilleure réussite pour l'instant dans ce championnat, mais ça va être dur de recoller derrière le Northampton. Et il y a notre club italien qui, bah, malheureusement, ils font un peu en Coupe d'Europe comme ils font en Six Nations, les Italiens, ils viennent un peu pour figurer.
Ouais, ils ont du mal à accrocher, quoi. Quand tu vois, là, c'est vrai que là, le goal average, ils sont à moins 45, ça fait un peu mal.
Ouais, non, ils ont...
Au moins, ils sont bien sapés à Benetton.
Waouh! Qui l'aurait osé?
Allez, poule 2.
Alors, donc, poule 2, pareil, on va repartir. Alors, pour l'instant, celle qui mène, c'est les Exeter Chiefs, qui étaient champions d'Angleterre il y a 2 ans. Voilà, derrière eux, il y a nos amis écossais de Glasgow, les Glasgow Warriors.
Et il me semble qu'ils ont joué La Rochelle.
Ben, ils sont venus gagner à La Rochelle, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est quand même difficile de gagner là. Et surtout qu'ils étaient assez largement menés. Je ne sais pas si tu as vu le match, Charlie, mais La Rochelle avait commencé assez tambour battant avec un Vincent Rathès qui ressemble vraiment à rien physiquement. C'est-à-dire qu'il n'a pas de gabarit, le mec. Mais par contre, il va à 2000 à l'heure et il est rentré dans les intervalles comme un maboule. Il leur a fait très, très mal. Et moi, ce que j'ai bien aimé, malheureusement pour nos Rochelais, c'est que les mecs des Warriors, ils se sont pas démobilisés et ils ont réussi à venir l'emporter sur le fil, je sais pas, 27-24 ou un truc comme ça, en allant chercher le match à l'ancienne. Donc je pense que c'est quand même une équipe à prendre au sérieux.
Ouais, absolument. Moi, je t'avoue que merci d'avoir repris, parce que moi, c'était plus La Rochelle qui faisait... J'avais plus été marqué par ma déception de La Rochelle en deuxième période que de nos amis Glasgow. Mais ouais, ils ont. Je pense qu'on peut on peut compter sur eux dans cette poule. Je pense qu'on va les voir. On va clairement les voir en quart de finale. Ouais.
Et donc Théo, donc t'as dit Maboule, Maboule, c'est bien ça?
Un Maboule, c'est comme le docteur Maboule.
Ok. Il me faut un petit dictionnaire.
C'est l'instant lexique.
Un Maboule, c'est un fou.
D'accord, ok. Sinon, aussi, le Sail Sharks avec mon ami Faf de Clare.
Oui, donc derrière, nos amis anglais, les Sail Sharks. Alors, c'est un grand club des années 2000, hein, parce qu'ils ont été donc champions d'Angleterre en 2006 avec un certain barbu qui a fini au Racing. Ouais, puis à Lyon, pardon, mais qui est passé par le Racing, connu de chez nous.
Qui a explosé là-bas, en fait. Hein. C'est marrant, mais c'est vraiment là-bas qu'il a explosé.
Qui a absolument, si basse, absolument. Ouais, notre ami Chabal, hein, qui a explosé là-bas. Ils ont été cette même année, et c'est là où ils ont le mieux figuré en Coupe d'Europe. Ils ont été quart de finaliste. Et ils ont gagné aussi, pendant ces années 2000, deux fois le challenge. Donc c'était vraiment un club qui a un passé, quoi. Mais dernièrement, qui a pas réussi à avoir ce niveau d'excellence.
Alors la petite histoire, tu disais Sebast, qui est en fait le surnom qu'avait Sébastien Chabal quand il était aux Sharks. Le Sebast, en fait, en anglais, je pense que c'est le bar ou le loup. tu me corriges si je dis des bêtises, Thierry, hein, mais c'était son surnom là-bas. Et en fait, c'est parce que Philippe Saint-André, qui était le coach de Sail, l'appelait Sebast. Parce qu'il s'appelle Sébastien Chabal, donc Sébast, et donc les mecs sur la touche l'ont appelé Sebast, et c'est devenu son surnom, vraiment le surnom du poisson, alors que c'était juste le bon franchouillard qu'il appelait Sébast en Angleterre, quoi. c'est juste la petite anecdote rigolote.
Et c'est assez marrant parce que c'est en fait c'est que du marketing, le CBAS en fait aux États-Unis, ce nom qui
tout à fait. Et puis après c'est devenu tout un truc.
En fait c'est juste un nom qui a remplacé un nom un peu moche. Bon, si on parlait de Pool 3 et 4, Théo.
Oui, alors Pool 3 et 4, on a des vieux amis Ulster Clermont qui sont en tête là de la poule. L'Ulster qui a battu Clermont dans un match assez disputé, 18-13 il y a quelques semaines. Ils auront leur revanche quand ils recevront l'Ulster à Clermont. Donc aujourd'hui, ils sont à 12 points l'Ulster, 11 points Clermont. Ça veut dire que la première place de la poule n'est pas encore décidée. Je pense que si Clermont fait son job et bat l'Ulster à Michelin, il y a des chances qu'ils sortent premier. Et puis derrière, bon, les Harlequins et Bath, qui sont deux équipes anglaises, des bonnes équipes, mais derrière Ulster et Clermont, je pense qu'elles sortiront pas. Ces équipes-là, elles sont décrochées au classement.
Question par rapport à Bath, est-ce que c'est eux qui jouent le plus propre ?
Ouais, bien sûr.
C'est nul.
Nettoie la tenue de l'Harlequin.
Pardon.
Et puis la poule 4, qui est chère à notre cœur, bien sûr, puisqu'il y a notre.
Puisqu'il y a le Munster.
Hein, puisqu'il y a le Munster, d'une part, et surtout qu'il y a le Racing qui est devant le Munster au classement, puisqu'ils ont fait match nul, hein, d'ailleurs, Racing-Munster. Mais Racing a récupéré ses internationaux et a fait quand même un gros, gros début de campagne européenne, il faut être honnête. Ils ont notamment un Vakatawa qui est exceptionnel, qui a sur certains matchs il est complètement au-dessus, il est d'une facilité, d'une puissance, d'une qualité technique qui est voilà, il est exceptionnel. Et puis il y a les
il te fait rêver.
Non, c'est vrai, franchement. Et puis il y a les Saracens qui est une équipe voilà, trois fois championne d'Europe récemment, mais malheureusement en très très grande difficulté parce qu'ils ont été fortement réprimandés pour dépassement du salary cap et ils ont eu pris des moins 30 points en championnat d'Angleterre. Donc ça casse un peu l'ambiance. Donc je pense que le club a un peu les pattes cassées.
Ouais, à d'autres priorités, ouais.
Est-ce qu'on peut parler rapidement de ça ? Donc, si j'ai bien compris, ils étaient, on va dire, punis parce qu'ils étaient au-dessus de leur limite, et en fait, leur limite de salaire qui est 7 millions, et c'est 7 millions, désolé, mais pour un joueur de NFL, il va gagner 7 millions, un seul joueur, son équipe de 50 mecs, il y a un mec qui va gagner 7 millions. 7 millions, c'est pas beaucoup.
C'est une logique de marché.
C'est pas les mêmes salaires.
C'est pas la même surface économique, ça, on est d'accord.
Mais aussi, si j'ai bien compris, donc ils étaient punis parce qu'en fait, au lieu de les payer cash dans un contrat, ils investissent. Dont on va dire le club investissait dans des projets,
c'est
dans
l'immobilier, des
projets,
ouais,
professionnels des différents joueurs. Mais en fait, en même temps, je me dis, mais est-ce que c'est une mauvaise chose d'investir dans la vie après rugby d'un joueur? C'est pas.
Ils ont juste contourné les règles, ils se sont fait attraper par la patrouille. Donc, mauvaise chose ou pas, en fait, on n'en sait rien. Mais c'est juste que tu n'as pas le droit de le faire. Donc, à un moment, quand tu t'affiches dans une compétition et qu'il y a des règles, c'est les mêmes pour tout le monde.
Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire que le problème, c'est pas est-ce qu'il faudrait augmenter le salary cap parce qu'il faudrait pas. C'est juste que c'est extrêmement sévère, hein, comme parce qu'en plus il y a eu une sanction financière, hein, qui l'a accompagné. C'est extrêmement sévère comme sanction parce que sportivement, clairement, ça hypothèque leur présence l'année prochaine, quoi. Enfin, c'est très violent. Mais il y a un moment, c'est vrai qu'il y a des règles. Tu choisis de pas jouer avec. Enfin. On va pas te faire des amendes de pour faire semblant, on va pas te faire des trucs que tu t'en fous de payer, comme parce qu'on peut parler aussi de Montpellier, hein, dans ce cas-là, qui s'est aussi un peu fait rattraper par la patrouille, mais que finalement la patrouille elle la laisse jouer. Tant que tu mets pas des vraies sanctions, en fait, les clubs continueront à jouer avec la règle. Et si tu veux que la règle soit appliquée, bah une sanction pareille, c'est normal, je trouve.
Là, c'est radical. Donc, en tout cas, dans cette poule 4, on a clairement Racing et Munster qui sortiront, à mon sens, puisque les Saracens, je pense, ont la tête ailleurs et les Ospreys sont décrochés puisqu'ils ont gagné aucun match. Ils ont pris 40 points le week-end dernier avec le Racing qui a été gagné là-bas, qui a fait un beau match. C'était un match assez disputé, mais Racing est bien passé devant. Donc, on verra certainement Racing et Munster en quart de finale et ça reste... des super équipes à voir sur ces phases finales, donc c'est sympa. Et bon, Thierry, t'as regardé la poule 5, toi, les matchs franco-français, ça t'intéresse, ça, en Coupe d'Europe?
Oui, ça intéresse. Bon, en fait, donc il y a Toulouse qui gagne ils ont gagné les trois premiers matchs, ils sont devant avec 13 points. Après, il y a deux équipes, donc difficile à prononcer, Gloucester, par exemple. Gloucester, je trouve ça difficile, en deuxième.
Les Anglais disent Gloucester.
Ouais, bon, bref. Toulouse-Montpellier, j'ai vu le match récemment sous la pluie. Toulouse a mené, je trouve largement, Montpellier me paraissait un peu perdu, en fait. Mais avec tous les grands joueurs qu'ils ont à Toulouse, c'est pas étonnant non plus. Et après, il y a Connacht, qui sont irlandais, il me semble, qu'ils ont gagné un match. Mais bon, je pense que Toulouse, c'est la seule équipe qui va sortir de ce pool.
Connacht, ouais.
Connacht.
Ouais, tu vois, c'est difficile. Pas facile à dire non plus.
Gloucester et Connacht. C'est même pas des mots français, j'arrive pas à les prononcer. Bon, bref.
Donc, en résumé, on voit que dans toutes ces équipes-là, il y a des équipes décrochées, comme d'habitude. C'est Trévise. C'est malheureusement, malheureusement La Rochelle parce qu'ils ont perdu contre Glasgow, donc ils sont niqués. C'est Basse, qui était une bonne équipe anglaise, qui a peut-être même été championne d'Europe à un moment, hein, je crois. Peut-être une fois. Bon, ou en tout cas, ils ont fait des phases finales à des moments, mais là, ils ne sortiront pas. Et c'est les Ospreys et le Connacht. Ensuite, tu as quelques équipes qui peuvent encore espérer. Qui sont éventuellement les Harlequins, éventuellement Sale, éventuellement Lyon, mais grosso modo, aujourd'hui, tous ceux qui sont premiers et deuxièmes de poule, donc Leinster, Northampton, Exeter, Glasgow, Ulster, Clermont, Racing 92, Munster et Toulouse, Gloucester ou Montpellier, ça va sortir, donc c'est des équipes habituées, il n'y a pas d'énormes surprises, quoi.
J'ai une question pour vous deux qui ont plus d'expérience avec ces équipes, on va dire européens et anglo-saxons là, que moi je connais pas de tout, j'ai pas d'historique en fait par rapport à ces équipes. Par exemple, si je compare au NFL, par exemple, il y a certaines équipes, les Pittsburgh Steelers, ils sont connus pour avoir un défense, les Chicago Bears, ils ont un certain marque de fabrique, on va dire, un marque d'équipe. Est-ce que pour des nouveaux personnes comme moi, est-ce que il y a dans ces équipes qu'on voit, est-ce qu'il y a un certain, on va dire, historique ou un certain personnalité d'équipe pour certaines qui sont intéressantes ou qui sont faciles à reconnaître, on va dire un ADN de
l'équipe. Historiquement, il y a le Munster qui s'est fait connaître sur la scène européenne avec un côté très irlandais du fighting spirit, si tu veux.
Ouais, un jeu d'avant avec.
Exactement, très rugueux, les très étouffants avec tout ça. Il y avait ça. Les Saracens, ils se sont fait aussi connaître sur leur dernière campagne européenne. C'était cette fameuse histoire du Wolfpack, quoi. Ils se considèrent pareil, ils sont très, très guerriers devant, c'est devant qu'ils vont aller le chercher.
Et puis, à contrario, t'as effectivement du Clermont ou du Toulouse qui, historiquement, sont les équipes qui envoient du jeu et qui perdent en demi-finale. J'exagère, mais...
Alors moins Toulouse quand même, parce que...
Non, c'est vrai que c'est pas gentil pour nos copains toulousains, c'est pas
ouais. Ouais, on peut pas leur enlever leur palmarès. Mais oui, c'est vrai qu'ils jouent plus, ou le Leinster aussi qui est plus joueur.
Ouais. Mais j'aurais bien aimé que tu nous parles quand même de l'ADN des Cincinnati Bengals. Tu sais que c'est mon équipe chérie. J'aimerais bien que tu nous fasses une petite conférence un peu sur le truc.
J'adore Thierry quand même. J'adore quand tu dis Cincinnati. Ah, ça fait pas. Vraiment bien rigoler. C'est Cincinnati. Ils ont 1 victoire pour 12 défaites, je pense. Donc c'est vraiment, c'est pas glorieux. Et en plus, ils jouent le Patriots ce week-end qui vient. Ça va être moche pour eux. Bon, bref, on n'est pas là pour parler NFL. On est quand même là pour parler aussi top 14. Donc si on parlait rapidement de top 14, moi, personnellement, je suis un peu surpris de voir les deux équipes qui mènent.
Bah après il y a toujours ce fameux effet Coupe du Monde, quoi. C'est parce qu'il y a aussi une équipe qui est maintenant dixième. Il y a Bayonne qui avait fait un super bon début de saison un peu pour les mêmes raisons. Lyon, Bordeaux qui sont en haut. Clairement ils ont payé un moins lourd tribut en nombre d'internationaux partis chercher le Graal que des équipes comme Clermont, Montpellier, Toulon.
Bon, le Racing avait 11 joueurs absents et honnêtement voilà, c'est pas jouable, quoi. Quand t'as tes 11 meilleurs joueurs absents, c'est quand même vraiment très, très compliqué. D'ailleurs, ils ont fait quelques bons matchs au retour, mais ça n'a pas suffi. Ils sont plutôt, pour l'instant, rattrapés sur la scène européenne. Je pense que cette année, leur planche de salut, elle est peut-être là-dessus, parce que comme ils sont 11e, à mon avis, ils vont arriver à se sauver. Mais je pense aller accrocher les 6, ça va quand même être très compliqué pour le Racing cette année. Donc, à mon avis, le choix, ça va être d'essayer de tout mettre sur la Coupe d'Europe, je suppose. Maintenant, je ne sais pas si vous avez vu un peu des matchs du top 14, mais moi, je suis surtout impressionné par Bordeaux, en fait, hein, qui a, voilà, enfin, le sorcier Urios a encore frappé. Il est quand même, lui, il est très très fort. Bon, c'est un provocateur de première, il est marrant en plus. Moi, j'aime bien parce qu'il laisse pas les gens insensibles. Mais bon, le mec, c'est quand même un magicien parce que ce qu'il arrive à faire avec les équipes qui gèrent, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que là, Bordeaux, ils sont hyper fort. Hyper fort.
Ce qu'il a fait notamment au Racing, où j'ai eu la chance d'assister à...
Ils envoient un jeu de folie, ils ont récupéré Jalibert, j'ai cru qu'il s'était blessé finalement, ça n'a pas duré si longtemps que ça, parce qu'il rejoue déjà, il est énorme, leur 10 là, il a une confiance de folie, enfin, même Ntamack, il y a du souci à se faire avec un mec comme ça en face, donc c'est tant mieux pour le rugby français. Mais Bordeaux, attention, ils ont cette année vraiment une très grosse écurie.
Bah, ce qui est étonnant aussi, c'est que j'ai regardé un peu des statistiques et les Loups et Bordeaux, en fait, ils sont tous les deux premiers en points et en défense. Donc, c'est pas par hasard qu'ils sont là, en fait, 1-2.
Absolument, absolument. Après, bon, on est obligé de parler du Stade français parce que Charlie est là et aussi parce que
c'est quand même une info. Ne vous sentez pas.
mais c'est vrai que c'est... C'est triste. Moi, Charlie, soyons clairs. Moi, je suis un supporter du Racing parce que j'ai joué au Racing, mais j'ai toujours apprécié le Stade français. Je ne suis pas du tout un joueur qui déteste ce club. J'adore que le Stade français joue les premiers rôles et son identité et tout ça. Donc là, les voir en queue de peloton décrocher comme ça, je trouve ça horrible. Et je commence à craindre qu'ils finissent en Pro D2 ce coup-là parce que je les vois quand même vraiment pas bien du tout.
Bah écoute, la petite blague que je voulais faire, c'est que parce que c'est vrai que l'Europe et le championnat national, c'est deux choses différentes et souvent les équipes se relancent comme tu mentionnais tout à l'heure le Racing, mais les équipes se relancent sur l'une ou l'autre compétition vu qu'elles sont très différentes. Et je voulais dire en rigolant qu'on a quand même gagné d'un point en Italie, donc
c'est beau.
On aurait pu croire à la relance. Non, mais c'était pour la blague. En vrai, évidemment que c'est très dommageable. Après, tu parlais d'identité du club. Je pense que clairement c'est un club qui a les infrastructures, qui a les fonds financiers, qui a vraiment tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui par rapport aux autres clubs lui a manqué? C'est quand même un club qui depuis quelques années a vu pas mal de ses anciens joueurs ou des techniciens qui sont passés, qui ont commencé dans ce club, aller ailleurs et réussir ailleurs. C'est un club qui a jamais réussi à garder ses anciens, enfin qui a un problème en tout cas dans le fait de garder ses anciens. On fait revenir Thomas Lombard, J'espère dans l'idée de retrouver une identité, d'aller chercher cette identité, mais quand même après, le Stade français a eu une belle décennie de même plus, hein, mais de haut de tableau, et on n'a pas réussi à le perpétuer, à miser là-dessus. Il y a eu trop de là il y a plein de mecs, bah justement on parlait de La Rochelle tout à l'heure, notre petit Plisson qui est parti. Il y a eu plein de mecs qui faisaient vraiment ce club. Ça avait commencé avec Slimani qu'on a laissé partir, les flancards.
Je crois que le président qui a racheté ce club, donc Hans-Peter
Wild, il a rien compris.
Qui est un suisso-allemand qui aimait bien le rugby en Allemagne et compagnie. Je pense malheureusement qu'il a effectivement rien pigé. C'est-à-dire qu'il a commencé par traiter ça à la Suisse allemande, à foutre un Sud-Africain autoritariste sur le dispositif en disant lui va me régler ça, ça va être du papier à musique. Et en fait, ça marche pas comme ça. Et le problème, c'est que il a flingué son équipe en un an avec Meyer Manette, qui est un mec, à mon avis, qui est un bourrin. Les mecs l'ont alerté. Quand ils l'ont alerté, il les a traités de cons et il les a virés. Et moyennant quoi, il est dernier l'année d'après et il a quand même été obligé de virer son entraîneur. Donc c'est juste que je pense que
il
a très très mal géré cette situation-là. Probablement qu'il n'est pas bien entouré. Et c'est vrai aussi que la fameuse union sacrée des anciens qui à chaque fois tente le coup, se ramène, s'en va, fait la danse du ventre, figure en tribune et puis n'est pas dans les organigrammes et puis ceci et puis cela, à un moment les mecs, il faut savoir s'ils ont envie de s'investir une bonne fois dans le club ou pas, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un côté girouette avec les anciens qui, au bout d'un moment, là, il n'y a que Thomas Lombard qui est sorti du bois. Tant mieux, je trouve que Thomas, c'est un super bon mec. Est-ce qu'il va avoir les moyens cette année de sortir l'équipe de la zone rouge? Bonne chance à lui, mais c'est pas gagné.
Est-ce qu'il est encore temps? C'est pas sûr. Mais c'est vrai, hein, ce que tu dis par rapport à Maillard, c'est dingue. On a appris que c'est pour ça que Paris s'était barré, mais t'as quand même tout ton vestiaire qui te tourne le dos, ton coach qui est plus suivi, et tu préfères te séparer de ton capitaine.
Ouais, ce que ça veut dire simplement, c'est que les mecs de temps en temps qui n'ont jamais foutu leur cul sur un terrain de rugby et qui prennent des décisions très structurantes dans des clubs de rugby, de temps en temps, il faut juste qu'ils dégonflent la baudruche et qu'ils écoutent les gens qui connaissent le sujet, ce qui est malheureusement pas son cas. Et le docteur, il est docteur, ouais, mais il a rien compris et il s'est trompé d'ordonnance. Voilà, ça, c'est
Bon, c'est quand même assez étonnant parce que c'est ils sont derniers, mais ils sont le moins de points marqués et le plus de points encaissés. Donc c'est pas par hasard qu'ils sont là.
Non,
quand
mais
même.
Là ils sont à la ramasse. Ils ont la tête. Ils ont.
Oui,
la tête
ouais, ouais, non, oui, oui, oui. Bien non, il y a pas de. Ouais.
C'est assez impressionnant.
Il y a pas photo.
Donc et oui, et pour quelqu'un qui a acheté un club, nous dans les NFL, on n'a pas cette idée de relégation, quoi. On peut. Quelqu'un va pas acheter un équipe NFL pour un milliard d'euros.
Même
pour,
les Bengals ne vont pas descendre.
Non, ils peuvent pas descendre. Ça existe pas. Ils seraient toujours là dans les NFL. L'année prochaine. Bon, donc quand même, on a parlé des deux meilleures équipes, on a parlé de pire équipe, désolé pour toi, Charlie. Entre deux, on a. entre tes larmes, on a beaucoup d'autres équipes. En fait, c'est assez marrant parce qu'à 24 jusqu'à 21 points, c'est du 3e place au 10e place, quoi. Donc,
ouais, c'est très serré. C'est très serré, grosso modo. Allez, on va dire que jusqu'au Racing, qui est à 19, après Castres, 18, pas loin, allez, même quasiment jusqu'au 12e aujourd'hui, mathématiquement, ça peut encore accrocher les 6 places, puisque oui. C'est pas loin, c'est 6 points devant. Maintenant, je pense que Agen et le Stade français, on sait qu'ils n'iront pas, et la fin de l'histoire, elle se fera sur un des deux qui sera relégué et l'autre qui tapera le match de la relégation. Donc pour le Stade français, c'est pas encore foutu, faut être honnête. Mais c'est quand même très mal parti.
Oui, oui, non, bien sûr que non, c'est pas foutu. Mais il y a de toute façon, même si cette saison, bon, on va finir cette parenthèse Stade Français, mais de toute façon, si cette saison se termine positivement dans le sens où se termine pas par une relégation, il y a quelque chose de cassé quoi qu'il arrive. Cette non-passation, cette non-transmission qui s'est fait, enfin, on n'a pas capitalisé sur les belles années de ce club, ouais, c'est cassé quoi qu'il arrive. Il faut repartir sur un nouveau truc maintenant, quoi.
Bon, je suis pas sûr pour vous, mais moi j'ai passé un bon moment pendant notre Coupe du Monde, j'avais l'impression de bien connaître les équipes aussi. Mais en fait, maintenant je tourne vers le top 14 et qui joue pour Brive ou Pau ou Bayonne. En fait, je connais pas du tout ces équipes. En fait, Casse non plus, Agen non plus, et j'ai un peu de mal. Donc Stade Toulousain, ok, c'est l'équipe de France, c'est bien, mais les autres équipes, j'ai un peu de mal. Est-ce que je devrais les suivre, Brive et Pau?
Brive et Pau, tu vois qu'ils sont 8e et 9e, c'est des équipes qui perdent très, très rarement à domicile et qui font des coups une fois de temps en temps à l'extérieur. Donc ça reste du beau rugby. Alors c'est vrai que quand c'est sur Canal, c'est pas toujours les matchs les plus beaux, mais tu vas au stade du Hameau ou au stade Amélie Domenech, tu vois un match de top 14, tu te régales toujours, hein. Voilà, c'est clair. Donc c'est des belles équipes qui ont des effectifs très complets. Alors il y a un peu plus de Géorgiens qu'ailleurs, quoique à Pau il y a quand même pas mal de Néo-Zélandais, hein. Colin Slade, ils ont un beau recrutement quand même.
Pau, ouais, c'est ce que j'allais dire, ça devient un peu une maison de retraite de All Black.
Ouais, ils en ont plusieurs. Maintenant c'est vrai qu'économiquement c'est des équipes qui sont fragiles, donc elles courent toujours en début de saison pour aller se retrouver en milieu de tableau à mi-parcours et pas galérer en fin de saison et espérer être entre 6 et 9. Quoi, voilà. Mais ça reste des super équipes qui envoient du jeu.
D'accord, donc ça vaut la peine. Donc je vais regarder ça. Je vais regarder ça pendant les matchs de Boxing Day. Hein, c'est pas un truc américain, par contre, c'est un truc anglais. Hein, je précise.
C'est très anglais.
Ouais. Je connaissais même pas le concept avant. En deux semaines, on a pas mal de matchs assez sympas qui vont arriver. On a Maître Racing Montpellier. On a Bordeaux contre Stade Rochelais, Toulon Clermont. Il y a des belles matchs de top 14 à très prochainement.
Après, Toulon Clermont est très attendu, mais c'est toujours ce même problème de est-ce qu'ils vont faire l'impasse ou pas, est-ce que les deux clubs vont envoyer leur meilleure équipe. On va voir, mais en tout cas, oui.
Tu vas avoir Bordeaux-La Rochelle qui doit être un super match parce que La Rochelle, c'est vraiment une équipe qui envoie du jeu, même s'ils ont perdu contre Glasgow, et Bordeaux cette année, comme ils envoient du feu, c'est pareil, ça va être un super match. Et puis, il y a un peu le match de la peur, Stade Français-Pau. C'est-à-dire que le Stade, là, s'ils perdent contre Pau à la maison.
Ah ouais, non, ça va être sale dramatique.
Donc, dimanche 12 à dimanche 22 à 12h30, là, va falloir serrer les biches.
je vais, une fois de plus.
Ils vont en train? Pour Pau?
Yeah. Est-ce que tu as une blague? Est-ce que c'est ça? Non, je te vois arriver.
Ouais.
Je pense qu'ils viennent en avion, honnêtement, mais ils ont pris un avion qui passe à Paris, mais qui ne s'y arrête
voilà,
pas.
Voilà, c'est ça. Petite blague à côté, c'est que en fait, j'ai acheté un CD quand je prenais le français. J'ai acheté un CD de comédie et cette blague était sur cette CD. Et j'adorais cette blague et j'ai trouvé qu'elle était vachement bien. C'est la première blague que j'ai un peu étudiée en français. C'était assez drôle. Bon, les gars, je pense qu'on a quand même.
Ceci explique beaucoup voilà. de choses. Si t'as commencé ton niveau français par là, les racines.
Je pense que Théo, t'avais quelque chose, tu voulais nous parler d'un Fidjien.
Oui, alors enfin presque de deux Fidjiens même, parce que j'ai dit que j'avais adoré les Fidjiens pendant la Coupe du Monde, et c'est vrai que j'admire toujours leur talent, leur qualité athlétique et aussi leur esprit, parce que c'est des joueurs qui ont une capacité d'abnégation, une culture de l'humilité, du collectif, etc., que j'aime beaucoup. Et arrivé en France, il y en a deux qui ont fait l'actualité, que vous avez peut-être un petit peu vu. Donc il y a Radradra qui a vraiment illuminé de son talent la Coupe du Monde. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez le match contre les Gallois, mais il était extraordinaire. Dès qu'il prenait le ballon, il y avait le feu à la pelouse. Et il joue aujourd'hui à Bordeaux. Et il est en train de partir. Il a signé. Là, je crois, il part à Bristol. L'année prochaine, il sera en Angleterre. Donc, moi, je suis atterré que Bordeaux laisse partir un joueur comme ça, parce que c'est quelque chose que je ne m'explique pas. Je pense que c'est quasiment un des top 5 meilleurs joueurs du monde, quoi. Il est fantastique. Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Et puis, beaucoup plus triste et beaucoup plus grave, vous avez vu que Léoné Nakarawa, qui a été meilleur joueur du championnat de France, qui est deuxième ligne ou numéro 8 au Racing depuis pas mal d'années, il nous a fait une Fidji, hein, c'est-à-dire qu'il est arrivé après le retour de la Coupe du Monde à la bourre pour la reprise de l'entraînement. Et il a été, au final, d'abord mis à pied et puis licencié par le club du Racing. Donc moi, c'est une histoire qui me frappe, parce que j'ai lu dans la presse, c'est la fin de l'impunité pour les Fidjiens, etc. C'est un peu vrai, c'est-à-dire que il y a plusieurs cas qui ont existé, il y a eu plusieurs affaires comme ça. Il y avait un joueur fantastique qui s'appelait Sosoni Boussa. À chaque fois, les mecs, ils allaient le chercher. Il arrivait fin septembre, il était gras comme un loukoum, mais il était tellement bon que mi-octobre, il rejouait, il enquillait tous les essais, et il était énorme. Mais quand ils partent là-bas, ces mecs-là, et Sosoni Boussa, c'était ça, ils allaient le chercher, le mec, il avait oublié, quoi. C'est-à-dire que là-bas, tu vis aux Fidji, tes pieds nus, tu montes dans ta barque le matin, tu vas pêcher des poissons, tu les fais griller, tu bouffes des noix de coco, t'es ailleurs, t'es complètement ailleurs. Et ces mecs-là, ils sont aussi structurés comme ça. Et c'est leur grain de folie, il est aussi là-dedans. C'est-à-dire le fait de tout oser, c'est aussi parce que c'est des mecs qui sont libres dans leur tête. Et un mec comme Nakarawa, qui est devenu un immense joueur en Europe, qui aura joué plusieurs années au Racing, que son histoire se termine par un licenciement, je trouve que c'est lamentable. Et c'est vrai que c'est vient se fracasser l'histoire du contrat, de la règle, du top 14, de l'indemnité de licenciement, du ceci, du cela, de la lettre recommandée, tout le bordel, sur la magie de ces mecs-là qui viennent du bout du monde avec juste leurs pompes et leurs pieds et leurs mains pour nous faire rêver, nous. Et quand ils font une Coupe du Monde, effectivement, il repart chez lui et t'entends ce que dit son père. Son père, il dit, oui, c'est vrai, Léoné est en retard, mais il nous a aidé à construire le deuxième étage de la maison. Et tu le licencies.
C'est trop mignon.
Mais non, mais c'est, tu vois, tu peux pas faire ça, en fait. C'est-à-dire que tu es obligé de dire, c'est vrai, les gars, tous les autres joueurs, vous êtes des Sudaves, vous êtes des Européens, vous êtes carrés, vous êtes rentrés à l'heure, vous êtes bien. Léoné, il est 15 jours en retard, il nous a niqué deux matchs, c'est vrai. Mais Léoné, c'est Léoné, quoi. Et lui, il pouvait pas partir parce que son père, il voulait que ce soit son fils qui mette les parpaings sur la baraque. Et c'est ça, ces mecs-là. Donc moi, ça m'attriste beaucoup que cette histoire finisse comme ça. Donc je suis un peu en colère. En même temps, je les comprends, le Racing. Mais en même temps, je trouve qu'ils n'ont pas été bons. Et quand tu vas chercher des mecs comme ça, tu les acceptes aussi un peu comme ils sont. Et tu te démerdes pour pas que ça finisse par une lettre commandée. Voilà, c'était mon coup de gueule.
C'était un beau coup, ouais. Et ça nous manquait un peu, hein, les coups de gueule de Théo, non ? Ça faisait un petit moment.
C'était une belle coup de gueule, Théo. Ouais.
Et en fait, j'ai eu les poils qui sont dressés.
Oui, c'est vrai. Ça fait 6 semaines que j'ai pas eu. Franchement, ça va. Mais en fait, c'est une question qui m'intéresse. Bon, moi, j'avais fait des études récemment. Je suis retourné à l'université pour faire un master en RH. Et le côté RH dans les équipes de sport, je trouve ça super intéressant. Parce qu'en fait, c'est un peu des gladiators, c'est des mercenaries dans un sens. Et où est l'accueil, l'intérêt humain? Qui s'en occupe des gens, quoi. Je trouve que c'est vraiment, c'est mercenaire, peut-être c'est pas le bon mot, mais
c'est un mot en plus qui est utilisé.
Les professionnels libéraux.
C'est un mot qu'on utilise. Et là, en fait, on fait de Léoné Nakarawa un mercenaire, c'est-à-dire qu'il se fait lourder, il va finir, je sais pas où, à, je sais plus quelle est l'équipe dans laquelle il a signé, il va aller en Angleterre, c'est pas à Bristol comme Radradra, mais c'est une autre. Je veux même pas le savoir. En plus, le pire, c'est qu'il va nous niquer, c'est-à-dire que le Racing, ça va leur coûter cher. Parce qu'ils vont se retrouver en phase finale contre lui un jour et il va planter l'essai de la gagne. Parce qu'il est meilleur et qu'il fallait le garder. Donc c'est ça, moi, que j'arrive pas à comprendre. C'est que pour faire respecter une règle qui est juste, c'est vrai, tu appliques un truc qui casse aussi l'esprit, en fait. Merde, ces mecs-là, ils sont pas tout à fait comme les autres, il faut l'accepter, quoi. Voilà. C'est à eux de gérer. Le Racing, ils ont de la thune. Ils avaient qu'à envoyer un mec au Fidji, le cornaquer, et lui dire « Léoné, faut rentrer, sinon on va être dans la merde. » Voilà, c'était à eux de le faire. C'est là où je leur en veux. Parce que la décision, je la comprends. Mais ils auraient dû l'anticiper.
Le message est passé. Vous nous entendez, Racing ?
Ils s'en foutent, ils nous écoutent pas.
Bon, les gars, quand même, un grand plaisir de vous retrouver après ce petit pause de 6 semaines. On a beaucoup de rugby devant nous. Donc, on va revenir le début de l'année prochaine. Donc, pour notamment les Six Nations, pour le European Cup, pour le Top 14. Donc, suivez-nous, bien sûr. Donc, ça veut dire cliquer sur tous les petits boutons qu'il faut dans les réseaux sociaux. Partagez, s'il vous plaît, avec tous vos copains qui aiment le rugby aussi. Joyeux Noël.
Ho, ho, ho.
Et à très bientôt en 2020.
Bah ouais, ravi de vous avoir retrouvé les copains, ravi de ce petit rendez-vous ponctué comme ça avant les grandes séances qui arrivent, et puis à très vite.
Joyeux Noël à tous.
Absolument, ouais. Paix, amour, tout ça.
Merry Christmas.
Soyez sages, mettez votre chaussure, mettez à Doc Martens en bas du sapin.
Doc Martens coquet.
Et nous, on mettra nos petits pantoufles.
Allez les gars, merci beaucoup, à bientôt.
Bon, allez, on se voit en 2020.
Ciao, ciao.
Allez, salut, bye bye.